Alors, nous allons donc nous arrêter hein, sur le Dieu trinitaire, sur les décrets et les œuvres de Dieu dans cette seconde partie. Donc, le Dieu de la Bible apparaît comme un seul et unique vrai Dieu, on l'a vu, en trois personnes distinctes, chacune de ces personnes étant pleinement Dieu. C'est ce qu'affirme la doctrine de la Trinité et ça a été une lente élaboration. Pourquoi? Parce que ça a été au cours de l'histoire de l'Église en réponse à des hérésies qu'elle s'est petit à petit élaborée. Il y a eu d'abord le symbole de Nicée en 325 qui a affirmé la divinité de Jésus-Christ hein, face à ceux qui la niaient. Et puis ensuite le symbole de Nicée-Constantinople en 381 qui cette fois a affirmé la divinité de l'esprit face à des négations. Et on est arrivé à une formulation un peu plus aboutie vers le cinquième, hein, le symbole d'Athanase. Alors, je vous propose maintenant de regarder les différents appui biblique à ce qu'affirme cette doctrine. Le Père est Dieu, je pense que c'est assez évident pour chacun. Il est question de Dieu notre Père ou Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je passe parce que je ne pense pas que ce soit bien la peine d'insister là-dessus. Le Fils est Dieu. Alors on va développer un petit peu plus, puisque voilà, dans certains courants, cela est remis en question. Il y a des affirmations explicites. Au début de l'évangile de Jean, je pense que vous connaissez bien ce texte qui nous dit que Jésus, enfin que la parole était elle-même Dieu. Et si on lisait un peu plus loin, je crois que c'est au verset 14, hein, on voit que la parole s'est faite chair et on comprend que cette parole n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Ou bien dans Romains 9, on voit que Christ dans son humanité, enfin il est question de Christ dans son humanité, mais aussi le fait qu'il est au-dessus de tout Dieu béni pour toujours. Ce texte de 1 Jean 5 que j'ai cité tout à l'heure pour un autre point, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y aurait d'autres textes bibliques, hein, mais j'en prends que certains. Il y a aussi des affirmations implicites de la divinité de Jésus-Christ. Il possède des attributs divins, c'est-à-dire des attributs qui caractérisent Dieu. Eh bien, l'omniprésence, là deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc, quand il y a des chrétiens qui sont assemblés en son nom sur toute la surface de la terre, eh bien, il est présent au milieu de chacun de ces petits rassemblements. La toute-puissance, tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Il possède aussi des titres divins. Sur son manteau, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, et sur sa cuisse, est inscrit un titre, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et ce titre, c'est un titre qui caractérise Dieu. Ou bien encore, Moi, je suis le premier et le dernier, toujours dans le livre de l'Apocalypse, qui affirme fortement de différentes façons la divinité de Jésus-Christ. Il fait aussi des œuvres divines. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le péché, c'est une offense envers Dieu, notamment. Et cela signifie que Dieu seul est à même de prononcer son pardon, puisque c'est lui qui est concerné par le péché. Eh bien voilà, Jésus-Christ a ce pouvoir de pardonner les péchés. On voit aussi qu'il est le Créateur, tout a été créé par lui et pour lui, en Colossiens 1. Il est digne, l'agneau, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'honneur, la gloire et la louange. Une véritable adoration qui est ici adressée à l'agneau, à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et puissance pour toute éternité. L'agneau reçoit la même adoration que celui qui est assis sur le trône, et on le voit au chapitre précédent, chapitre 4, qui est Dieu. On voit aussi qu'on peut lui adresser des prières. Par exemple, Étienne, alors qu'on le mettait à mort, priait en s'adressant au Seigneur Jésus. On voit aussi que des textes qui, dans l'Ancien Testament, concerne l'Éternel, eh bien, sont appliqués à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ce texte de Zacharie au chapitre 12, c'est de l'Éternel qui est question là. Et on voit dans le Nouveau Testament que l'évangéliste Jean eh bien, dit que cela concerne Jésus-Christ. Alors, voilà, on vient de voir que le Père est Dieu, pardon, le Fils est Dieu, et j'ai juste sauté, le Saint-Esprit est Dieu. Ah, mince, excusez-moi, j'ai fait une bêtise dans ma présentation, j'ai supprimé la photo sur la divinité de l'esprit. Alors, on va passer là-dessus, et puis à la fin de la présentation, je prendrai une autre présentation où je l'ai. Voilà, donc il y a aussi la distinction au sein de la Trinité. Le Père et le Fils sont distincts. Eh bien, je dirais que les appellations de Père et de Fils impliquent bien une distinction. Jésus est notre avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Là encore, on voit bien que cela implique une distinction. Jésus est envoyé par le Père. Le Père et l'Esprit sont distinctes. On voit par exemple l'Esprit de Dieu qui, lors du baptême de Jésus, qui descend sous forme d'une colombe et qui vient sur Jésus. Et en même temps, il y a une voix qui vient du ciel. On comprend que c'est la voix de Dieu, donc qui est au ciel, et l'Esprit qui est en train de descendre sur Jésus. Donc là, cela implique une distinction. Ou encore, lorsque Jésus dit qu'il va prier le Père et que le Père va donner un autre paraclète. Là aussi, il y a bien une distinction entre Père et Esprit, distinction entre Fils et Esprit. Eh bien, on peut reprendre ce même texte qu'on vient de voir lorsque Jésus dit hein, qu'il priera le Père et qu'il donnera un autre paraclète. Jésus est là avec ses disciples, il leur a dit qu'il va remonter auprès du Père, mais il leur dit, mais vous n'allez pas rester seul, le Père va vous donner un autre paraclète. Donc, distinction entre le Fils et l'Esprit. Et on le voit aussi, par exemple, dans Acte 2, hein, lorsque Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint et ensuite l'a envoyé vers ses disciples, vers ses enfants. Cette distinction, il s'agit d'une distinction qui existe de toute éternité. Et puis, c'est aussi une distinction dans les rôles ou fonctions hein, des trois personnes de la Trinité, et puis aussi dans les relations qu'elles peuvent entretenir avec l'univers créé. Voilà, mais je ne développe pas plus ces deux points parce que on n'a pas le temps dans le temps qui est imparti ce soir. Cette doctrine de la Trinité. Ah oui, pardon. L'unité des trois personnes de la Trinité, Jésus peut dire que lui et le Père ne font qu'un. On sent aussi cette unité entre Dieu et l'Esprit. Hein. Nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Hein, donc une profonde unité entre le Père et l'Esprit, aussi entre le Christ et l'Esprit. Il est question de l'Esprit du Christ. Je relèverai ce dernier texte, on pourrait en relever d'autres. À la fin de l'évangile de Matthieu, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dirais que ce texte montre à la fois la distinction entre Père, Fils et Esprit, mais il milite aussi fortement en faveur de la divinité des trois. Et là, je reprends ce que dit le théologien Henri Blocher, bah, il le reprend déjà en les mettant dans ce texte sur le même plan, mais aussi par le biais de l'usage de la grammaire grecque, qui voudrait que si les trois avaient un nom différent, eh bien, on mette le pluriel au nom. Et le fait qu'il y ait ce singulier, cela milite fortement en direction du fait qu'ils ont le même nom, celui du Dieu unique. Alors cette doctrine de la Trinité, eh bien c'est une doctrine importantes. Ce n'est pas juste, j'allais dire, des élucubrations qui n'ont pas d'impact sur notre vie. Elles me semblent nous rejoindre fortement dans notre vécu quotidien. Si Jésus n'est pas Dieu, que penser alors du fait d'adorer Jésus, de le prier, de le servir, de lui consacrer notre vie entière? On comprend bien que si Jésus n'est pas Dieu, alors nous n'avons pas à le prier, nous n'avons pas non plus à l'adorer et nous n'avons pas non plus à lui consacrer totalement nos vies. De plus, si Jésus n'est pas Dieu, cela signifierait que Dieu a donc sanctionné un innocent à la croix. Et cela pourrait paraître injuste au plus haut point. Mais si Jésus est effectivement Dieu qui s'est incarné, alors la situation est tout à fait différente. Dieu est celui qui est offensé par nos péchés, c'est pourquoi lui seul est à même de décider de pardonner ou pas. Et dès lors, il n'y a rien d'injuste à ce qu'il décide de subir lui-même la sanction que méritaient nos péchés. Et puis, si Jésus n'est pas Dieu, alors on pourrait se poser la question de savoir en quoi le sacrifice de Jésus est véritablement une preuve d'amour de Dieu pour nous. Ce serait, on pourrait dire, éventuellement la preuve d'un amour indirect, mais d'un amour un peu spécial, puisqu'il se manifesterait à nous par le sacrifice d'un innocent. Ça serait finalement un amour un peu froid, un amour assez distant. Mais si Jésus est Dieu, alors son sacrifice est la preuve d'un amour sans condition de Dieu pour nous, d'un amour qui va jusqu'au sacrifice de lui-même pour le bien de ceux qu'il aime. S'il n'y avait pas de distinction personnel en Dieu, hein, j'ai relevé qu'il y avait une distinction éternelle au sein de la Trinité, de tout, eh bien, il me semble que cela remettrait en cause l'indépendance et même la personnalité de Dieu. Il serait difficile d'imaginer comment Dieu pourrait être un être personnel s'il n'y avait pas la possibilité de relations interpersonnelles, et cela de toute éternité, avant la création des hommes. Et finalement, si la dimension relationnelle dépendait d'un autre être que de Dieu, c'est-à-dire dépendait aussi de la création de l'être humain, eh bien, c'est dans ce sens que je dis que ça viendrait remettre en cause une certaine indépendance de Dieu lui-même. Et puis on pourrait, dès lors, s'il n'y avait pas de distinction personnelle en Dieu, se poser la question de l'amour de Dieu. Pourquoi? Notamment l'amour de Dieu de toute éternité, le fait que Dieu soit amour dans son être. Pourquoi cela? Eh bien parce que je ne crois pas que l'amour puisse être conçu, puisse être envisagé comme une simple potentialité. L'amour ne peut exister que dans le cadre de relations qui existent, mais il ne se limite pas à une simple potentialité. Voilà quelques points que je voulais relever en lien avec cette doctrine. Alors par rapport à cette doctrine, hein, on s'aperçoit qu'on n'est pas à même de comprendre toutes choses, qu'il y a des choses qui nous échappent, qu'on ne comprend pas bien comment tout peut s'articuler, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Et je termine par ce mot du théologien Grudem. En fait, il est spirituellement sain de reconnaître clairement que l'être même de Dieu dépasse notre compréhension. Cela nous garde dans l'humilité devant Dieu et nous pousse à l'adorer sans réserve. Les décrets de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de décrets de Dieu, on parle du plan éternel de Dieu, et même si on parle des décrets au pluriel, hein, ces décrets rentrent dans un seul et même plan. Hein, ils ont été fixés de toute éternité. La venue du Seigneur Jésus, son œuvre, cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur, dans Éphésiens 3. Ce plan de Dieu, il est bienveillant. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. C'est aussi un plan qu'il a librement déterminé, pardon. En lui, nous avons été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Ce n'est pas quelque chose qui lui serait imposé de l'extérieur. Et ce plan de toute éternité, eh bien, il subsiste à toujours. Il sera là de génération en génération. Il ne change pas. Et ce plan, il se réalise, hein, dans Éphésiens 3. Hein, voilà, cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ce plan de Dieu, hein, à travers la création, les cieux racontent la gloire de Dieu, et Dieu est digne de recevoir la gloire parce qu'il a créé toute chose. Ça, c'est en lien avec son plan de créateur, mais aussi avec son plan de nouvelle création. Hein. Il parlait de la rédemption que Dieu, de ce, pardon, que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il nous a prédestinés à être adoptés pour célébrer la gloire de sa grâce. Donc voilà, ce plan, il manifeste aussi la gloire de Dieu. Mais il ne s'agit pas juste d'un plan général, il comprend aussi des choses précises. Le psalmiste, toujours dans ce psaume 139, hein, peut dire que voilà, dans le livre de Dieu, finalement, la durée de son existence était définie. Tous mes jours étaient inscrits. Ou encore, hein, le fait que Jésus ait été livré, eh bien, c'était selon ce que Dieu avait arrêté, ce que Dieu avait prévu. Dieu a aussi préparé des bonnes œuvres pour que nous les accomplissions. Donc, on voit que ce plan, il concerne aussi des choses très précises. Alors, l'affirmation que Dieu a tout librement planifié selon sa sagesse infinie, hein, on a vu qu'il était infiniment sage, soulève l'épineuse question de l'origine du mal. Comment se fait-il que le mal existe alors qu'un Dieu souverain, infiniment sage, bon, tout-puissant, hein, a tout planifié selon le conseil de sa volonté? Des générations de chrétiens se sont posées cette question sans pouvoir y apporter une réponse pleinement, j'allais dire, satisfaisante, définitive. Et quelque part, cela ne devrait pas nous surprendre, puisque Dieu lui-même, dans sa parole, n'apporte pas de réponse à cette question, pourtant ouvertement posée, que ce soit par Asaph au psaume 73, que ce soit par Habacuc dans son livre, ou que ce soit à travers le livre de Job. En fait, la réponse de Dieu à ces croyants, hein, qui posent cette question, qui nous taraude, ne vise pas, la réponse de Dieu, elle ne va pas viser le pourquoi du mal, mais bien plutôt le comment y faire face. Dans la réponse qu'il nous apporte, Dieu affirme sa pleine souveraineté sur toute chose. Il affirme sa parfaite justice, sa parfaite bonté, et il donne l'assurance qu'un jour, tout le mal commis sera pleinement jugé. Et en attendant ce jour-là, eh bien Dieu nous assure de sa présence à nos côtés pour nous aider à traverser victorieusement les circonstances difficiles. Et pour cela, je dirais, ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas tant de comprendre le pourquoi du mal, mais plutôt de continuer à pouvoir placer notre confiance en Dieu. Ce que je voudrais rajouter, c'est que si nous ne pouvons pas comprendre l'origine ultime du mal, on peut toutefois comprendre qu'il est quelque peu logique que cette origine demeure incompréhensible. Et là, je rejoins ce que dit le théologien Henri Blocher, hein, et qu'il développe dans son livre Le mal et la croix. Dans un univers créé par un Dieu parfaitement bon, l'origine du mal se doit d'être inexplicable, parce que arriver à expliquer son origine, ça reviendrait d'une certaine façon à faire rentrer le mal dans la création. Pourquoi? Eh bien, parce que expliquer quelque chose à l'aide d'un raisonnement, finalement, c'est mettre par ce raisonnement des choses en relation les unes avec les autres par des liens de cause à effet. Par conséquent, si on arrivait à expliquer l'origine du mal, hein, grâce à un raisonnement, eh bien, c'est que d'une façon ou d'une autre, cette origine ferait partie de l'univers dans lequel nous sommes, ce qui reviendrait à dire que la création telle qu'elle est sortie des mains de Dieu n'était pas parfaitement bonne. La volonté de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure, hein, que Dieu avait une volonté. Cette volonté, ce n'est pas une volonté arbitraire, mais une volonté qui est en parfaite harmonie avec le caractère de Dieu. On a vu tout à l'heure, cette volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Lorsqu'on examine les données bibliques qui se rapportent à cette volonté, eh bien, on peut en faire ressortir plusieurs facettes. Il y a ce que l'on peut appeler la volonté décrétive de Dieu, qui est finalement la volonté à l'origine de ses plans, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Cette volonté, elle est aussi appelée la volonté secrète de Dieu, parce que on ne peut pas toujours la connaître. Et cette volonté, elle va nécessairement s'accomplir. J'ai pris ce texte d'Ésaïe 46. Voilà, il annonce l'avenir et ce qu'il dit, son dessein l'accomplira. Son dessein s'accomplira, pardon. Tout ce qu'il désire, il l'exécutera. On peut parler aussi de la volonté préceptive de Dieu. Elle est aussi des fois appelée volonté révélée de Dieu. C'est celle qu'il prescrit à ses créatures, qu'il prescrit à nous-mêmes finalement, pour nous dire ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut que nous fassions. Elle est d'ailleurs parfois appelée la volonté de désir de Dieu. Hein. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse. On peut parler aussi de la volonté active de Dieu, hein, c'est-à-dire lorsque Dieu agit de façon directe pour accomplir ce qu'il veut, ou la volonté permissive de Dieu, qui en général est plus en lien avec la question du mal. Par exemple, ce texte de Acte 14, où il nous est dit que Dieu a laissé tous les peuples suivre leur propre chemin. Et on comprend que quand ils suivaient leur propre chemin, ils ne cherchaient pas à suivre Dieu, et bien voilà, Dieu les a laissés faire. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Les œuvres de Dieu. Le premier chapitre de la Bible, hein, nous présente Dieu comme étant le créateur de tout le monde matériel qui nous entoure. Il a créé toutes choses. C'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tout a été créé par la parole. Hein. Dans Jean 1, nous avons vu que la parole était Jésus-Christ. Voilà ce texte encore. La création de Dieu, elle est bonne. On l'a vu tout à l'heure, il vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Et puis, on l'a aussi relevé tout à l'heure, sa création lui rend gloire. Toute la terre est pleine de la gloire de l'Éternel. Et puis aussi, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créés pour ma gloire. Alors, ces divers enseignements que nous venons très rapidement de survoler en lien avec l'acte créateur de Dieu, me semblent capitaux, car ils permettent d'écarter de nombreuses conceptions erronées. tout d'abord, puisque Dieu a créé l'éternel en partant du néant, eh bien, cela nous montre que la matière n'est pas éternelle, comme l'affirment certains courants de pensée, le matérialisme notamment. Cela affirmer que Dieu a créé l'univers, hein, c'est aussi dire que le monde qui nous entoure est bien réel et qu'il ne s'agit pas d'une illusion, contrairement à ce affirment certaines philosophies, telles l'hindouisme par exemple. Cela permet aussi d'écarter l'idée selon laquelle la matière serait mauvaise et par contre l'esprit serait bon, hein. La conception dualiste affirme cela. Non, on l'a vu, tout ce que Dieu a créé était très bon. Cela permet aussi, bien sûr, de s'opposer à la pensée panthéiste, hein, qui affirme que tout est Dieu et que Dieu est tout. Puisque Dieu a créé, l'univers, il est distinct de l'univers et l'univers ne saurait donc être Dieu. Cela permet aussi d'écarter le polythéisme, puisque Dieu est à l'origine tant des êtres physiques que spirituels. Et cela signifie donc qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme l'affirment les systèmes polythéistes. Cela signifie aussi que les esprits ne sont pas omniprésents, puisqu'ils sont des créatures de Dieu. Cela implique entre autres que Satan et ses démons ne sont pas tout-puissants, pas plus qu'ils ne sont omniprésents. Voici rapidement donc quelques points qui me paraissent très importants en lien avec la doctrine de la création. La providence divine. Parler de providence divine, c'est affirmer que Dieu est toujours à l'œuvre au sein de sa création, que ce soit en la maintenant à l'existence ou en dirigeant toute chose pour l'accomplissement de son conseil éternel. On parle de conservation ou de préservation. Cela veut dire que par une action continuelle, Dieu maintient à l'existence tout ce qu'il a créé. Voilà les textes, quelques textes qui le soulignent à l'écran. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, donc j'avance. Et cette notion de conservation, elle a aussi une implication sur le plan pratique, et bien notamment, elle rend la science possible. Cela signifie que l'univers va pouvoir se comporter d'une façon prévisible. Toute expérience qui, dans des conditions données, donne un résultat aujourd'hui, donnera le même résultat dans les mêmes conditions si on le reproduit, parce que Dieu a posé les lois de la nature qu'il continue à maintenir à l'existence, hormis dans les cas de certains miracles. Mais là, on est hors de ce qui se passe de façon courante. Cela nous montre aussi que le déisme est erroné, hein, puisque Dieu ne laisse pas l'univers livré à lui-même, mais qu'il continue à intervenir. Le gouvernement souverain de Dieu. La Bible nous présente Dieu souverain sur la création. Là, j'ai donné des exemples à la météo, hein. Dès qu'il en donne l'ordre, c'est le dégel, il fait souffler son vent, les eaux ruissellent. Louez l'Éternel, vous tous, abîmes, éclairs, grêle, neige, brume, vents impétueux qui exécutez ses ordres. Sur la nature, hein, là, il est question des animaux et puis finalement de leur nourriture que Dieu peut leur donner. Ici, voilà, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service des humains. Alors, ce que nous montrent ces textes, c'est qu'il y a bien sûr des causes naturelles. On met une graine en terre et puis s'il y a suffisamment d'humidité et de chaleur, elle va donner naissance à la plante qui va permettre de se nourrir, par exemple, derrière. Mais finalement, ces textes nous rappellent bien que derrière ce qu'on pourrait considérer juste comme des lois naturelles, eh bien, Dieu est à l'œuvre derrière ces causes, entre guillemets, naturelles. Dieu est souverain sur les peuples, il domine sur les nations. C'est lui qui leur donne leur accroissement, leur déclin. leurs limites territoriales et leurs limites temporaires. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure dans le livre des Actes au chapitre 17. Les autorités, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Sur la vie humaine aussi, il donne et reprend la vie. C'est l'Éternel qui fait mourir et fait vivre, 1 Samuel 2. Il va même jusqu'à pouvoir orienter les décisions du cœur. Le cœur du roi est comme un cours d'eau dans les mains de l'Éternel. Il le dirige à son gré. Ou bien avec le Cyrus hein, qui a donné cet édit qui a permis d'aller reconstruire le temple, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Nos capacités, nos dons nous viennent de Dieu. Voici ce que peut écrire l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Finalement, toutes nos capacités, tant physiques qu'intellectuelles, tous les dons que nous pouvons avoir, nous viennent de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Etc. Je mets trois petits points. Dieu est aussi souverain sur le mal. Alors, on a évoqué tout à l'heure la providence préventive hein, par laquelle Dieu permet certaines choses ici dans Genèse 20. Hein, c'est lorsque Abraham avait présenté sa femme comme étant sa sœur. Alors, c'était sa demi-sœur, on peut dire que c'était un demi-mensonge, mais voilà, il savait bien ce qu'il risquait, donc il lui a présenté comme sa sœur, et puis le roi a voulu la prendre pour femme parce qu'elle était très belle, mais voilà, Dieu a arrêté ce roi, hein, parce qu'il voyait que ce roi avait agi en toute bonne conscience. Et puis, voilà, dans sa providence permissive, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a laissé tous les peuples, pardon, suivre leur chemin. Ou bien encore, hein, au début de Romains 1, où Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Ils n'avaient pas jugé bon de connaître Dieu, et bien Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Il y a aussi ce qu'on peut appeler la providence restrictive, hein, lorsque Satan a voulu faire du mal à Job, et bien dans un premier temps, Dieu lui a dit, ben, tu peux aller jusque-là, mais ne porte pas la main sur sa personne. Et puis Satan revient à la charge, et cette fois, Dieu va lui permettre d'aller un peu plus loin, mais en le laissant en vie, épargne sa vie. Voilà, donc Dieu pose des limites dans le mal. Alors, il y a des textes bibliques qui peuvent nous surprendre. J'en ai relevé quelques-uns, mais il peut y en avoir d'autres. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon, ou enfants de les fils de Samuel, eh bien, l'Éternel voulait les faire mourir. Ou encore, avec le roi Achab, hein, eh bien, Dieu a mis un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Alors, il me semble en fait que tous ces textes parlent de l'intervention de Dieu en jugement. Le Pharaon avait déjà lui-même endurci plusieurs fois son cœur avant que Dieu ne l'endurcisse. Les fils d'Élie, le roi Achab, connaissaient fort bien la loi de Dieu, mais s'en détournaient complètement hein, et n'avaient pas du tout à cœur de la suivre. Alors, je comprends ces textes, et bien voilà, comme un jugement de Dieu qui tombe sur eux parce que, à un moment donné, ils ont refusé de suivre Dieu. Alors d'autres textes peuvent aussi poser question. Je crée le malheur dans Ésaïe 45. N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les maux et les biens? Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amos 3, verset 6. Alors ces actions divines, elles sont perçues comme, je dirais, des choses mauvaises par ceux qui en sont les objets. Mais je dirais que en elles-mêmes, elles ne peuvent être mauvaises puisque Dieu est saint, qu'il est bon et qu'il n'y a pas de mal en lui. Hein, tout à l'heure, on peut penser, ben voilà, ce qui est arrivé au Pharaon, ce qui est arrivé au fils d'Élie, etc. On peut appeler ça un malheur, mais on a vu qu'il s'agissait d'un jugement de Dieu sur eux. Alors, je ne suis pas en train de dire là, attention, et que dès qu'il arrive quelque chose de grave, comme ce tremblement de terre là, qui vient d'avoir lieu au Maroc, c'est nécessairement un jugement de Dieu. Hein, là, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Et je me garderai de dire une telle chose. Alors, ces textes que nous avons abordés là, que nous venons d'aborder, nous montre que Dieu utilise toute chose pour accomplir son dessein, même le mal. Et si Dieu fait rentrer le mal au sein de son plan qui lui est parfaitement bon, eh bien, il sait en tirer du bien à la fin. Là, il y a cet exemple de ce qui est arrivé à Joseph. Ses frères avaient projeté de lui faire du mal, mais parce que vous avez fait, et effectivement, ses frères ont fait du mal. Dieu a projeté de faire du bien. Voilà, il a fait rentrer le mal qu'ont accompli les frères de Joseph pour l'accomplissement de son plan qui lui est parfaitement bon. Alors, il me semble que ce qu'on a vu dans ces différents points, c'est que Dieu est pleinement souverain, qu'il peut utiliser le mal commis par les hommes, que Dieu lui-même ne fait pas le mal, qu'il n'est pas responsable du mal commis et que l'être humain demeure responsable de ses propres actes. Alors, ces différentes affirmations, bien sûr, soulèvent de délicates questions. Comment l'être humain peut-il être libre et responsable face à un Dieu souverain? Comment un Dieu parfaitement souverain peut-il être activement souverain sur le mal? Un Dieu parfaitement bon, pardon. Face à ces questions, j'aimerais mentionner deux approches différentes qu'ont des chrétiens qui reconnaissent l'autorité de la parole de Dieu. Mais avant de souligner ce qui différencie ces deux approches, l'approche dite calviniste et l'approche dite arminienne, je voudrais soulever que ces approches sont d'accord pour les points qui sont soulignés ici, que de dire que Dieu est pleinement souverain, qu'il peut utiliser le mal, qu'il ne fait pas le mal, qu'il n'est pas responsable du mal commis par les hommes et que l'être humain est responsable de ses actes. Alors, dans le calvinisme, on comprend que Dieu a volontairement décrété de permettre le péché. On a parlé tout à l'heure de la permissivité que Dieu avait à cet égard. Cette approche souligne qu'il y a une dissymétrie entre ce que Dieu fait et ce que l'homme peut faire. Dieu affirme que Dieu n'est aucunement, pardon, l'Écriture affirme que Dieu n'est aucunement responsable du mal commis par les hommes. Et en même temps, on l'a vu, elle dit qu'il peut endurcir le cœur des hommes pour qu'ils s'opposent à lui. Sur le plan des relations humaines, eh bien, un être humain est responsable de ce qu'il fait faire aux autres, même si les autres peuvent encore en garder une certaine responsabilité. Dans l'approche calviniste, les textes sur la souveraineté sont compris comme étant le cadre général et les choix sont libres parce qu'il s'agit de choix volontaires et de choix responsables, mais ils demeurent néanmoins sous le contrôle de Dieu. Dans l'approche arminienne, en fait, l'entrée du péché, elle n'a pas été décrétée par Dieu, elle n'est pas selon la volonté de Dieu. Dans cette approche-là, il est inconcevable que Dieu puisse susciter des choix volontaires chez l'être humain. Et les textes qui parlent de la souveraineté de Dieu sont compris comme simplement des textes qui parlent d'exemples particuliers. Enfin, la liberté est comprise comme étant une possibilité d'agir indépendante de contrôle de Dieu. En même temps, je voudrais quand même relever ce que peut écrire un auteur selon cette approche, hein, qui souligne que la volonté des hommes peut néanmoins être affectée par la prière. Sinon, nous ne prierions pas pour eux. Croire à la prière équivaut donc à croire que la volonté humaine est limitée d'une certaine manière et que Dieu exerce sur elle une sorte d'influence incompréhensible. Donc dans cette approche-là, on reconnaît, ou en tous les cas certains reconnaissent, qu'il peut quand même y avoir une influence de Dieu. Alors, à la fin de ce survol, je reconnais personnellement, je ne sais pas trop comment articuler ces différentes affirmations bibliques, mais il me semble que cela ne doit aucunement nous mener à vouloir en rejeter une ou en rejeter une autre sous prétexte qu'on ne voit pas comment les articuler. Parce que finalement, cela reviendrait à placer notre raison au-dessus de Dieu, hein, si c'était notre raison qui devait décider de ce qu'on peut retenir ou pas. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, on est prêt aussi à accepter des choses qui nous dépassent. Le fait que Dieu soit éternel, ça nous dépasse, qu'il soit omniprésent, qu'il soit un tout en étant trois personnes distinctes, etc. Et ce sont pourtant des choses qu'on accepte parce qu'on voit que la Bible, la parole de Dieu nous les dit, sans arriver pleinement à faire rentrer tout cela dans un raisonnement totalement cohérent. Et pour terminer, je voudrais simplement dire que ces deux approches demeurent chacune avec des questions non résolues. La position calviniste n'apporte pas de réponse à la question comment Dieu peut orienter nos décisions sans pour autant en être aucunement responsable. Et quant à l'approche arminienne, l'affirmation selon laquelle Dieu n'a pas voulu que le mal existe soulève la question de l'omnipotence divine, de la toute-puissance de Dieu. Si le mal existe contre sa volonté, comment croire alors finalement, comment avoir l'assurance qu'il va finir par remporter une victoire finale sur le mal? Et il me semble que la réponse qui consiste à dire que Dieu a volontairement laissé l'homme la possibilité de pécher, afin que les choix humains puissent être de véritables choix, eh bien, n'est pas vraiment satisfaisante non plus. Parce que cela voudrait dire que si on veut que dans l'éternité future, nos choix puissent être de véritables choix, alors il faudrait aussi qu'on ait encore cette possibilité de pécher, ce qui poserait la question sur cette éternité qui nous attend. Et puis, on pourrait encore dire que si pour être véritable, un choix devait nous laisser la possibilité de choisir entre le bien et le mal, alors les choix de Dieu seraient-ils de véritables choix? Puisque Dieu ne peut pas choisir le mal. Alors je termine sur ce texte. Profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui, pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen.
Merci beaucoup, Philippe, pour cet exposé. Et puis, avant de conclure d'ici quelques minutes, je te propose de répondre peut-être encore à l'une ou l'autre question. Et puis, il y en a une qui est intéressante en parlant de l'omnipotence de Dieu, notamment. Et cette question-là, en fait, vise Satan. Et notre auditeur pose la question, comment le diable a-t-il échappé à la providence de Dieu sans qu'il n'y ait aucun programme pour sa rédemption?
Je n'ai pas de réponse à cette question, puisque je suis un de ceux qui croient que l'origine du mal est totalement inexplicable, et comme j'essayais de le montrer, se doit d'être inexplicable. Donc, en fait, il y a presque deux questions dans cette question que tu viens de me poser. Celle de ben, comment se fait-il finalement que Satan ait pu chuter, puisque hein, tout ce que Dieu avait créé était bon, que ce soit les êtres spirituels ou les êtres physiques. Donc, Satan, au début, était bon et puis il a chuté. J'ai aucune explication à amener à sur le comment cela a été possible. Henri Blocher parle à ce propos de l'écharde de la chair dans la raison, enfin l'écharde dans la raison. Voilà, voilà quelque chose qu'on n'arrive pas à... Et puis ensuite, pourquoi aucune rédemption possible pour le diable? Je n'ai pas de réponse à apporter. La parole de Dieu ne nous en apporte pas. Et voilà, je crois qu'il faut se garder de vouloir spéculer sur ces silences-là.
Merci. Et puis encore une question, j'imagine, qui peut-être plus dans d'autres pays, sur d'autres continents que pour nous ici en France ou en Suisse, est vraiment une question. Comment expliquer qu'un Dieu d'amour donne l'autorité à des dirigeants si cruels comme certains dirigeants actuels?
Oui, effectivement, c'est une question. Là aussi, à laquelle j'allais dire, je n'ai pas de réponse à apporter. On voit que Jésus lui-même, hein, lorsque lui est posé des questions sur cette tour de Siloé qui s'est écroulée, sur des, en guillemets, des innocents. Jésus ne cherche pas à expliquer le pourquoi de ce qui s'est passé ou de ce qui serait plus en lien avec la question de ce massacre. Alors, je ne me souviens plus qu'on fait voilà, quand des personnes qui venaient offrir des sacrifices ont été massacrées. C'est dans le même passage, il me semble. Jésus, là non plus, n'apporte pas de réponse au pourquoi, mais simplement, il pose cette question de notre positionnement devant Dieu en disant que si on ne se repent pas, eh bien, finalement, on périra nous aussi, dans le sens qu'on sera, bien sûr, loin de Dieu. Pourquoi Dieu permet... Effectivement, qu'il y ait des dirigeants si atroces, je n'ai pas de réponse. En tous les cas, ce que Dieu nous demande, nous, après, en tant que chrétiens, ben, c'est dans ces circonstances dramatiques, eh bien de faire autant que possible briller sa lumière, témoigner de son amour. Mais voilà, désolé de ne pas pouvoir apporter de réponses satisfaisantes, mais dès qu'on aborde ce problème qui est du mal, eh bien, on est en grande difficulté. Ce que je voudrais quand même souligner à cet égard-là, c'est que nier l'existence de Dieu ne permet pas d'amener non plus une réponse satisfaisante à cette question du mal. Parce que, je donne juste un ou deux éléments, nier l'existence d'un Dieu, alors cela signifie qu'il n'existe pas un référentiel transcendant qui permet de définir ce qui est bien ou ce qui est mal. Ça veut donc dire que le bien ou le mal ne peuvent être définis que de façon subjective. Et si on pousse, alors on n'a pas le temps de le faire là, mais le raisonnement au bout, eh bien on s'aperçoit que on n'a plus de moyens de dire que telle chose est bien ou que telle chose est mal, parce qu'on se situe dans une subjectivité qui peut être culturelle, qui peut être historique, qui peut dépendre du contexte dans lequel on a grandi. Parce que effectivement, des fois, on entend dire des non-croyants, mais moi, je ne peux pas croire en Dieu face à ces tremblements de terre, à ces innocents qui périssent, voilà, à des atrocités qu'on peut voir. Et effectivement, on peut comprendre cette réaction, j'allais dire, elle est d'une certaine façon compréhensible, mais se dire que Dieu n'existe pas, eh bien, si on veut être cohérent avec cette affirmation-là, on s'aperçoit qu'on ne peut plus parler de choses qui soient bonnes ou mauvaises de façon absolue, et donc on n'aurait plus la possibilité de s'offusquer de ce qu'a accompli, par exemple, Hitler ou d'autres tyrans qui ont peuplé l'histoire et qui continueront à la peupler. Et c'est C.S. Lewis qui fait aussi remarquer à cet égard que donc C.S. Lewis parle pas mal de l'argument moral, hein, et donc c'est très intéressant, mais là on est plus sur le cours d'apologétique. Mais il fait aussi remarquer que si il paraît inconcevable à quelqu'un que le mal existe avec un Dieu pleinement souverain, un Dieu pleinement bon, eh ben, c'est au moins autant inconcevable que l'être humain ait pu envisager l'existence d'un Dieu qui soit parfaitement bon, parfaitement souverain face à ce mal qui existe de tout temps dans notre création. Voilà. Donc là, c'était pas pour amener une réponse, mais c'était pour montrer que, simplement souligner que le fait de se dire, eh ben, face à ce que je ne peux pas expliquer en tant que chrétien, finalement, l'option de nier l'existence de Dieu peut-être permettrait de solutionner ce problème. Elle ne permet pas plus de solutionner ce problème-là, parce que même les êtres humains ont ancré au fond d'eux-mêmes qu'il y a des choses injustes. Hein, si jamais on leur dit que ce qu'a fait Hitler, ben après tout, lui, il trouvait que c'était bon, donc pourquoi s'en offusquer? Au fond d'eux, c'est inacceptable, ça. Hein. Donc on voit qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout de leur raisonnement.
Merci Philippe. Un grand merci aussi, une fois encore pour cette présentation. Puis on va laisser à Marco le mot de la fin.
Alors peut-être juste un petit mot. Il y a deux, trois choses que j'ai sautées. Comme d'habitude, il y a un document qui est mis en ligne sur le site. Et donc, il y aura un document et avec quelques points que j'ai sautés et qui seront un petit peu plus développés, ou certains mêmes points que j'ai abordés, mais qui seront un petit peu plus développés que ce que j'ai présenté. Voilà.
En effet, merci beaucoup Philippe. Voilà, ça touche à sa fin. Je veux juste rajouter un mot pour répondre, enfin, pas donner une réponse parce que je pense que c'est plus un encouragement. En Jean 16, on peut voir que c'est le passage où Jésus, il avertit les siens des persécutions qui auront lieu le début du chapitre. Et ça m'a fait penser à une histoire, là, quand on évoquait les persécutions et les massacres de masse que on a vu sur la terre et qui persiste encore aujourd'hui. Et un frère, un jour, il a raconté ça dans un de ses témoignages. Il allait être mis à mort pour sa foi et il s'est approché de son bourreau au moment où on allait l'exécuter et lui a cité ce verset de Jean 16 qui lui dit: Ils vous excluront des synagogues, même à l'heure vient que quiconque vous tuera pensera à rendre un sacrifice à Dieu ou un service à Dieu ou un culte à Dieu, ça dépend les versions que l'on a. Donc, on voit que le Seigneur Jésus prévient de ça ses disciples et prévient de ça, d'une certaine manière, tous ses enfants. Il suffit de savoir dans quel camp on est. On est dans celui qui est le plus le vainqueur, dans celui qui nous a permis d'espérer en lui et de lui faire confiance. Qui sera contre nous? C'est dans Romains. Donc, voilà. Encore merci beaucoup, Philippe. Et sur ce, on vous souhaite une agréable soirée ou une bonne journée en fonction du fuseau horaire où vous êtes. Et à très bientôt sur Biblos. Au revoir.